Bonjour cher Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en terre dantesque où nous avons traversé depuis lundi les différents cercles qui nous ont conduits au diable. Ça c'était hier. Mais le voyage en enfer a une fin, dans la Divine Comédie de Dante en tout cas, et nous voici arrivés au bout de l'enfer, au pied de cette montagne que nous allons gravir ensemble, le purgatoire. Elle est en route sur les chemins de la philosophie qui aujourd'hui côtoie les zombies.
Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je suis si pâle. Je devrais sortir plus souvent, manger mieux. Je me tiens super mal. Je devrais me tenir plus droit. Les gens me respecteraient plus si je me tenais mieux. Qu'est-ce qui va pas chez moi ? Ce que je veux, c'est communiquer. Pourquoi j'y arrive pas ? Ah oui, c'est vrai. C'est parce que je suis mort. Je devrais pas être aussi dur avec moi-même, on est tous morts. Cette fille est morte, ce mec-là aussi. Celui qui est dans le coin, il est définitivement mort. Oh mon Dieu, ils sont tous affreux. C'est une journée habituelle pour moi. Je traîne par-ci, par-là, je bouscule des gens, sans être capable de m'excuser ou de dire quoi que ce soit. Beaucoup d'entre nous ont élu résidence dans cet aéroport, je sais pas pourquoi. Dans les aéroports, c'est vrai, on attend, mais nous, je sais pas trop ce qu'on attend.
Manuelier Granulati.
Bonjour, madame.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
C'est un grand plaisir d'être là et merci de l'invitation.
Est-ce qu'au purgatoire, les êtres que Dante croise ressemblent à des zombies ?
En fait, c'est... Je dirais... Peut-être d'une certaine façon, oui, dans le sens que ce sont des... morts qui ne sont pas vraiment morts. Mais d'une autre part, je vois tout de suite une différence. J'ai entendu que le zombie qui parlait, il a dit « nous, on ne sait pas ce qu'on attend ».
C'est-à-dire que ils sont, eux, leur purgatoire, c'est un aéroport, et ouais. Ils déambulent. Hein, c'est le film « Warm Bodies » ou « Zombie malgré lui » de Jonathan Levin en 2013. Et le film s'ouvre avec cette scène. Donc le narrateur dit « voilà, je m'ennuie, je ne sais pas trop quoi faire. Ah oui, c'est vrai, je suis mort, je suis avec des zombies. » Et en fait, on ne sait pas ce qu'on attend.
Ouais. Tandis qu'au purgatoire de Dante, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ouais. Et c'est comme, quand je pense au purgatoire de Dante, je pense comme à une thérapie. Vous voyez, c'est un chemin où on s'améliore. C'est comme de se préparer pour quelque chose de magnifique qui est l'expérience du paradis. Alors, le purgatoire de Dante, c'est une expérience. Moi, dans mon premier livre que j'ai écrit en anglais, je parle de productive pain. C'est une douleur productive. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est une douleur qui aide, qui enseigne, et ce, en effet, que peut-être c'est la différence plus grande entre une ombre au purgatoire chez Dante et un zombie, c'est que les ombres, elles souffrent, mais cette souffrance est de la joie aussi, et en fait, c'est une souffrance qui donne, qui a un sens très grand. Alors, c'est pas une attente, mais c'est une expérience d'amélioration.
Bon, on va essayer de faire en sorte que cette émission soit aussi une expérience d'amélioration. Pourtant, ouais. C'est pas un purgatoire. Vous êtes en tout cas Emanuele Granulati, professeur de langue et littérature italiennes anciennes à l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez travaillé aussi en tant que Senior Research Fellow au Somerville College d'Oxford et vous êtes directeur associé de l'ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry. Ça fait beaucoup de casquettes et vous me disiez en début d'émission, enfin avant que l'émission commence, que cette identité un peu nomade qu'est la vôtre vous aidait pour lire Kant, pour lire Dante, pardon, en quel sens?
Oui, peut-être dans le sens que, comme vous le savez, quand on bouge beaucoup, on rencontre plusieurs personnes, plusieurs méthodes. Moi, je me suis formé en Italie en tant que philologue classique. Après, j'ai étudié en France. J'ai fait mon doctorat à New York. J'ai enseigné aux États-Unis à l'université d'Oxford pendant 13 ans. Maintenant, j'habite entre Berlin et Paris. Et en fait, ce que je cherche à faire dans ma façon de lire Dante, c'est de mélanger un peu tout et de chercher à trouver, en effet, une façon de le lire qui soit en même temps nouvelle et personnelle.
Ce texte vous accompagne depuis longtemps?
Ça m'accompagne depuis très longtemps, depuis presque 30 ans maintenant.
Et on n'en a jamais atteint le bout, en fait.
Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est un texte, peut-être tous les textes, qu'on lit avec soi-même, avec sa propre vie, ça change aussi la façon de les lire.
J'ai dit qu'aujourd'hui, nous allions passer du temps dans le purgatoire. On est enfin sortis de l'enfer. Ça faisait 2 jours que nous y étions dans cette émission depuis lundi dernier. Nous voici arrivés au purgatoire. Mais avant de décrire ce que Dante va y voir, il faut déjà définir ce qu'on entend le purgatoire. Parce qu'au moment où Dante écrit, le sens change. Alors voici la définition que l'historien Jacques Le Goff propose du purgatoire.
Très tôt, les chrétiens se sont préoccupés du sort des morts dans l'au-delà, et ont cherché un moyen pour ceux qui risquaient d'aller en enfer, de les tirer de cet enfer. Dès le 6e, 7e siècle, on imagine qu'il y a, en général, c'est un coin de l'enfer, ou près de l'enfer, dans l'au-delà, que l'on appelle locus purgatorius, une sorte d'antichambre au paradis où ceux qui arrivent sans pouvoir être admis tout de suite ont la possibilité de se purger. Le mot purgatorius, qui m'a donné purgatoire, est très intéressant, me semble-t-il, parce qu'il est entre la purge et la purification. Il y a donc un élément en quelque sorte matériel dans le passage par le purgatoire, on est purgé de ses impuretés, de ce qui reste de péché, mais en même temps, on acquiert progressivement un état différent, un état de pureté qui permet d'être admis au paradis.
Le purgatoire comme étant le lieu où à la fois on se purge et l'on se purifie, notion à la fois matériel, corporel, quasiment hygiéniste, et une dimension plus morale, la purification, cette définition correspond exactement au purgatoire tel que le décrit Dante, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et en effet, ça me fait plaisir que vous ayez choisi un passage de la naissance du purgatoire, qui est un texte très important pour tous qui... De Jacques Le Goff, pour tous ceux qui, en fait, lisent et étudient Dante. Et c'est un livre qui se termine avec un chapitre sur Dante qui s'appelle, en effet, Le triomphe poétique. Pour Jacques Le Goff, le triomphe poétique du purgatoire est la Divine Comédie. Et la définition qu'il donne du purgatoire, c'est pas étonnant, c'est Jacques Le Goff, c'est parfait. Et c'est justement ce royaume qu'on pense comme un lieu qui donne la possibilité justement de s'améliorer à travers la souffrance. Et c'est pour ça que Jacques Le Goff parle de quelque chose qui est entre la purge et la purgation. C'est-à-dire il y a un côté physique de souffrance et de douleur, mais comme vous l'avez dit, il y a aussi un côté d'amélioration et de progrès. Et c'est très intéressant que, en effet, le purgatoire devient un dogme de la chrétienté très tard. C'est seulement au deuxième concile de Lyon, c'est la fin du XIIIe siècle, 1274, que le purgatoire est reconnu comme dogme. Et c'est un changement très important, en effet, parce que c'est comme le symbole que quelque chose a changé dans la façon de penser à l'au-delà. C'est-à-dire que au départ, quand on pensait à la mort physique, on pensait pas vraiment à ceux qui arrivaient dans l'au-delà, sinon à la fin des temps, avec le jugement dernier, ce moment collectif où toute l'humanité était jugée, séparée entre les méchants et les sauvés. Et il n'y avait que l'expérience de l'enfer et du paradis. Tandis que le purgatoire est le symbole d'une nouvelle emphase de l'au-delà, eschatologique, on dit, d'une façon un peu plus technique. C'est-à-dire que, à bout d'un moment, à commencer du XIIIe siècle, on commence à penser à ce qui arrive à l'âme séparée, à l'âme qui se sépare de son corps. C'est-à-dire que on n'attend pas la fin des temps parce qu'il y a une expérience de l'au-delà, mais dès que l'âme se sépare de son corps, elle a un jugement individuel qui, en fait, établit une condition de souffrance en enfer ou purgatoire ou de joie au paradis.
Ce que vous dites, c'est qu'avec l'invention du purgatoire, ou la façon qu'il a d'être décrit au moment où Dante prend la plume, donc fin XIIIe siècle, début XIVe siècle, c'est l'idée même d'un jugement individuel aussi qui apparaît. C'est l'âme va pouvoir être jugée individuellement. C'est plus l'eschatologie, la fin du monde qui est proche. À chaque individu revient la possibilité, peut-être, eh bien, soit de survivre à sa propre mort, soit de se racheter, puisque c'est l'âme qui est jugée.
Oui, tout à fait. Et justement, souvent, et c'est très intéressant pour moi, on associe le purgatoire à ce qu'on appelle la naissance de l'individu. Ouais, parce que, en effet, c'est plus seulement l'individu dans la collectivité, mais c'est aussi l'individu avec son expérience justement personnelle, individuelle, qui commence à être important. Et le purgatoire peut être pris comme le symbole de cette individualité.
Ce qui est très difficile à penser dans le cadre d'un certain christianisme, hein, c'est la place du jugement individuel au sein du dogme même qu'est le christianisme.
Et je ne sais pas si vous avez parlé de Minos la semaine...
Dites-nous.
Parce qu'en fait, c'est un juge que Dante prend de l'Énéide de Virgile. Et lui, quand l'âme séparée arrive en enfer, il la juge. L'âme se confesse, il la juge. Et ce personnage-là est vraiment le symbole d'un nouveau jugement individuel.
Alors, on va l'écouter ensemble, ce texte, mais ça nous fait revenir en enfer.
Ouais,
j'ai promis aux auditeurs qu'on serait au purgatoire. Donc, petit passage en arrière, on retourne en arrière, mais pour bien comprendre, c'est à ça qu'il faut être attentif en écoutant ce texte, hein, la façon qu'a ce Minos de juger les âmes individuellement. Écoutez, ouais. C'est très poétique parce que c'est en fait, on sait à quel cercle de l'enfer telle âme va être envoyée en fonction du nombre de tours qu'il va faire dont il va s'entourer lui-même à l'aide de sa propre queue. Trois tours de queue, c'est le troisième cercle. Écoutez ce texte interprété par Georges Clès.
Je descendis ainsi du premier cercle dans le second qui enclôt moins d'espace, mais douleur plus poignante et plus de cris. Minos s'y tient, horriblement, et grogne. Il examine les fautes, à l'arrivée, juge et bannit suivant les tours. J'entends que, lorsqu'une âme mal née vient devant lui, elle se confesse toute, et ce connaisseur de péché voit quel lieu lui convient dans l'enfer. De sa queue, il s'entoure autant de fois qu'il veut que de degrés l'âme descende. Elles se pressent en foule devant lui et vont, l'une après l'autre, au jugement. Elles parlent, entendent et tombent. À présent, commencent les notes douloureuses à se faire entendre. À présent, je suis venu là où les pleurs me frappent. Je viens en un lieu où la lumière se tait, mugissant comme mer en tempête quand elle est battue par vent contraire. La tourmente infernale, qui n'a pas de repos, mène les ombres avec sa rage et les tourne et les heurte et les harcèle. Quand elles arrivent devant la ruine, là sont les cris, les pleurs, les plaintes. Là, elle blasphème la vertu divine. Et je compris qu'un tel tourment était le sort des pécheurs charnels qui soumettent la raison aux appétits. Tout comme leurs ailes portent les étourneaux dans le temps froid en vol nombreux, ainsi ce souffle mène de ça, de là, de haut en bas, les esprits mauvais. Aucun espoir ne les conforte d'aucun repos et même de moindre peine. Et comme les grues vont chantant leurs complaintes en formant dans l'air une longue ligne, ainsi je vis venir, poussant les cris, les ombres portées par ce grand vent.
Le vent qui souffle, les gémissements qui s'échappent des gorges, des corps à moitié défaits, la rage, les ombres, et oui, vous êtes bien en enfer. Dans la Divine Comédie de Dante qui nous accompagne cette semaine sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Aujourd'hui, on était pourtant arrivé au purgatoire, mais grâce ou à cause de vous, Manuele Granolati, nous sommes retournés en enfer pour entendre ce texte sublime, qui d'ailleurs est très important pour comprendre le purgatoire. D'abord, qui est Minos ? Dites-nous.
Minos est le juge infernal qui, comme vous avez expliqué, a la tâche de indiquer à l'âme damnée à quel cercle elle doit aller. Et c'est justement, comme vous le disiez, le symbole de cette individualité qui commence, c'est-à-dire, c'est toujours difficile de dire quand elle commence, mais c'est-à-dire, en effet, Erich Auerbach, le grand philologue allemand, elle part de la Divine Comédie comme la première véritable représentation de l'individu. Et là, ce qui est intéressant de ce passage magnifique, c'est que la deuxième, la partie qu'en fait, on n'a pas écoutée, elle est encore plus magnifique.
Mais oui, mais on aura envie de tout donner à entendre.
C'est la rencontre avec Francesca da Rimini qui, justement, est toujours jugée comme la première femme, la vraie femme, le vrai personnage de la littérature européenne. Alors là, le lien entre la confession, l'individu et Francesca est tout évident.
Ça, on en a parlé un petit peu lundi dernier, hein. Je renvoie les auditeurs à cette émission. Avant qu'on retourne au purgatoire, parce que les éléments ici nous sont donnés pour y aller, on voit qu'il s'agit d'âme et d'ombre, on va voir comment l'âme devient ombre. D'abord, ce qu'on peut retenir à l'écoute de ce texte, c'est qu'en fait, peut-être avons-nous tort de commencer la lecture de la Divine Comédie par l'enfer, parce que chronologiquement, c'est d'abord le purgatoire qui ensuite va nous envoyer en enfer ou au paradis.
Pas vraiment, parce qu'en effet, si on arrive en enfer, on y reste.
Ben c'est pour ça. Donc on ne peut pas aller normalement au purgatoire. Il n'y a que Dante qui fait ce voyage dans ce sens.
Si, parce que il y a les âmes, c'est-à-dire quand on meurt, Dante pense que il y a trois possibilités. Soit on va en enfer et on y reste. L'enfer est éternel. Pas pour tout le monde, mais pour Dante, s'il y avait des femmes mystiques qui disaient en fait qu'il n'était pas éternel. Soit on va en enfer, soit on va au purgatoire, et du purgatoire, on ira au paradis. On ne peut pas du purgatoire aller à l'enfer. On va au paradis, soit on va directement au paradis, mais là c'est très rare. C'est-à-dire qu'en fait le purgatoire, c'est l'endroit où les âmes vont qui doivent encore compléter ce chemin de purgation.
Alors on entend de manière très précise et très belle, parce que très poétique, la manière qu'ont ces individus dont vous parlez, si on pense que ce texte est contemporain à la naissance de l'individu, dans le christianisme et aussi dans la pensée en général, bien la manière dont ces individus sont qualifiés. On voit ici que se sont substitués aux termes qui évoquent le corps, qui sont très présents dès le début du texte. Dante évoque très vite son corps qui va tomber, qui va s'endormir, qui va rêver. Ici, bien, de plus en plus, ces vocables sont remplacés par ceux qui sont liés à l'âme, voire à l'ombre. Il y a une dématérialisation des corps, si bien que, arrivé au purgatoire, en fait, ce que Dante voit, ce sont des âmes, c'est-à-dire des ombres.
En fait, c'est selon les théologiens, un autre dogme du christianisme était que le feu de l'enfer et du purgatoire est un feu physique. Ce n'est pas une douleur métaphorique, celle de l'au-delà. Et alors, tous les théologiens devaient expliquer comment c'est possible qu'une âme qui est séparée de son corps, parce qu'on est dans le moment de l'au-delà où l'âme est justement sans son corps, comment c'est possible qu'une âme sans le corps puisse
souffrir.
La douleur qui, en effet, est physique. Et alors, c'était pas évident d'expliquer comment c'est possible. Tout le monde avait des théories très compliquées, surtout à Paris. On pensait beaucoup à ça. Et Dante, il a aussi sa théorie. Et en fait, c'est justement vers la fin du purgatoire, dans le chant 25 du purgatoire, que Dante écrit que l'âme du poète latin Stas, il explique comment c'est possible. C'est-à-dire que on a vu, on a lu, nous lecteurs avons lu, toutes ces punitions physiques dans l'enfer et le purgatoire, et Dante ne peut pas nous laisser aller au paradis sans nous expliquer comment c'est possible. Alors, l'âme de Stas explique que quand l'âme se sépare de son corps terrestre au moment de la mort physique et elle arrive à l'au-delà, La première chose qu'elle fait, même avant d'aller chez Minos, c'est de se créer un corps d'air qui lui donne la possibilité d'avoir tous les sens, ciascun sentire, dit Dante, et une apparence, paruta. Et alors, c'est les ombres que Dante...
Donc ça devient une ombre, ce corps immatériel que l'âme se crée.
C'est-à-dire que c'est l'ombre, pour Dante, est cette union de l'âme séparée et du corps aérien que l'âme peut se récréer dans l'au-delà. Et de cette façon-là, les ombres ont une intériorité, celle de l'âme, mais aussi la possibilité d'avoir les sens, de sentir la douleur.
Mais si elles ont la possibilité d'avoir les sens, elles ressentent la douleur, mais aussi le plaisir.
Tout à fait. Et c'est pour ça que au paradis aussi, les âmes sont parfaitement bienheureuses. C'est-à-dire que ce corps-là donne une possibilité très puissante pour avoir une expérience pleine de l'au-delà, même avant la fin du temps, quand le vrai corps, le corps de chair, reviendra. C'est-à-dire ce corps aérien...
Ah, parce que le corps de chair revient au paradis.
C'est-à-dire, pas seulement au paradis, mais c'est-à-dire au paradis et en enfer, parce que le purgatoire, en fait, est temporaire. Le purgatoire va durer seulement jusqu'à la fin des temps, quand il sera fermé. C'est-à-dire, la fin des temps, il n'y aura que l'enfer.
Qui est très long, quand même.
Hein. Oui, c'est très long. Oui, tout à fait, c'est très long. On n'est pas encore arrivé.
Non, je crois pas.
Même si Dante, il pensait que la fin des temps n'était pas si loin. Mais, c'est-à-dire que, au Moyen-Âge, mais encore le christianisme aujourd'hui, pense qu'à la fin des temps, il y aura ce qu'on appelle la résurrection du corps. C'est-à-dire que le vrai corps reviendra et il y aura cette unité encore de l'âme et de son vrai corps. Tandis que l'ombre a un corps aérien qui est très important, mais ce n'est pas vraiment le vrai corps. C'est comme une possibilité de continuer justement à avoir une expérience pleine de l'au-delà.
On pourrait s'imaginer que dans le purgatoire, puisqu'il ne s'agit que d'âmes qui se sont inventées un corps, comme vous dites, qui sont devenues des ombres, il y a un rapport beaucoup moins charnel et corporel à ce que Dante voit, enfin que Dante ait lui-même un rapport moins charnel. Et or, il n'en est rien dans le purgatoire. Il y a beaucoup de descriptions physiques, de fluides, de quasiment physiologiques. Il y a une grande matérialité qui est très surprenante par rapport à au mode d'être des âmes que Dante contemple.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'il y a une mémoire de l'âme, de son corps passé.
Justement, vous voyez, on avait dit que le purgatoire, c'est une expérience d'amélioration et de changement. Et les âmes, quand elles arrivent au purgatoire, elles sont encore très liées à leur corps.
C'est ça.
Et c'est vraiment le symbole du monde passé, de leurs souvenirs, de toutes les affections, les sentiments.
Il y a une mémoire du corps qui s'imprime dans l'âme.
Si, tout à fait. Mais on peut penser au purgatoire comme le processus qui apprend à l'âme à se détacher de tout ça. Parce qu'en effet, vous avez vu, en enfer, il y a tous ces égos maniacales et justement, le purgatoire, c'est la façon de laisser tout ça derrière. Et le purgatoire apprend aux âmes de se détacher de son propre passé et, en fait, d'apprendre ce que on appelle « caritas ». C'est-à-dire un amour qui est impersonnel, qui est pour tout le monde, qui est pour Dieu.
Au chant 2 du purgatoire, on n'en est pas encore là. C'est encore source d'une grande douleur que de se rendre compte qu'une certaine corporéité n'est plus. Et quand Dante raconte ses retrouvailles avec son vieil ami Cassel, là, il le reconnaît et ils veulent se prendre dans les bras. Et là, la souffrance est énorme de se rendre compte que les ombres qu'ils sont devenus ne peuvent pas s'étreindre. C'est le récit d'une étreinte impossible qui est bouleversant, qu'on retrouve ailleurs dans la littérature, dont voici l'extrait.
Les âmes qui s'étaient aperçues à me voir respirer que je vivais encore devinrent toutes pâles d'étonnement. Et comme un messager qui porte l'olivier attire la foule curieuse de nouvelles sans que nul n'ait souci de la cohue, ainsi ces âmes fortunées s'attachèrent toutes à mon visage, comme oubliant d'aller se rendre belles. Je vis l'une d'elles se jeter en avant pour m'embrasser, avec tant de tendresse qu'elle me poussa à faire comme elle. Oh, ombre vaine, sauf en leur apparence. Trois fois j'étendis mes bras autour d'elle, trois fois je les ramenai sur ma poitrine. La stupeur, je crois, se peignit sur ma face, car l'ombre sourit et se retira, et moi, je m'avançai en suivant ses pas. Elle me dit doucement de m'arrêter. Je la reconnus alors, et la priai de rester un peu à me parler. Elle répondit, « Comme je t'aimais dans mon corps mortel, ainsi je t'aime délié. Aussi je m'arrête. Mais toi, pourquoi vas-tu ? Mon casella, lui dis-je, c'est pour revenir là où je suis que je fais ce voyage. Mais toi, pourquoi as-tu mis tout ce temps ? Et lui, je n'ai subi aucune offense si celui qui emmène qui et quand il lui plaît m'a refusé plusieurs fois le passage, car son vouloir vient d'un vouloir juste. Et vraiment, il a pris depuis 3 mois en toute paix tous ceux qui ont voulu monter. Et moi, qui tournais alors mes pas vers la plage où l'eau du Tibre devient salée, je fus reçu bénignement par lui. Il dresse à présent ses ailes vers l'embouchure, car c'est toujours là qu'il recueille ceux qui ne descendent pas vers l'Achéron.
Je disais que ce n'était pas l'unique récit d'une étreinte impossible dans l'histoire de la littérature. En réalité, on en trouve dès Homère, dans l'Odyssée. Voici, avant qu'on commente le texte, Manuele Granolatti, le récit donc de l'étreinte manquée entre Ulysse et sa mère.
C'est le regret, c'est le souci de toi, mon noble Ulysse. C'est mon amour pour toi qui m'ont ôté la douce vie.
À ces mots, moi, je méditais, je désirais d'étreindre l'âme de ma mère trépassée. 3 fois je m'élançais, mon cœur me pressait de l'éteindre. 3 fois hors de mes mains, pareil à une ombre ou un songe, elle s'enfuit. À chaque fois mon chagrin s'aiguisait et je lui adressais ces paroles ailées. Mère, pourquoi ne pas rester quand je voudrais t'étreindre, afin que, jusque chez Hadès, nous embrassant, nous puissions tous les deux savourer le frisson des larmes ? Ceci n'est-il qu'un spectre que la grande Perséphone a suscité pour que je redouble de plaintes ? À ces mots, répondit ma mère souveraine.
Hélas, mon fils, le plus malheureux des mortels, Perséphone, fille de Zeus, ne veut pas te leurrer. Ce n'est que la condition de l'homme lorsqu'il meurt. Les nerfs ne tiennent plus ni les chairs ni les os ensemble, mais la force du feu qui se consume les détruit aussitôt que la vie a quitté les ossements blancs. L'âme, elle, comme un songe, s'est enfuie à tire d'aile. Allons, empresse-toi vers la lumière et tout cela, retiens-le pour le répéter plus tard à ton épouse.
Les rapprochements sont vraiment surprenants entre les deux extraits que l'on vient d'entendre, puisque dans le second, donc l'extrait de l'Odyssée, les termes employés sont exactement les mêmes que ceux employés par Dante, et pourtant on est bien avant le début du christianisme, on retrouve l'âme devenue ombre, on retrouve le feu qui brûle et la quête vers la lumière qui commande quand même toute la Divine Comédie de Dante. Comment vous l'expliquez, Emmanuel Granolatti ?
En fait, je l'explique à travers Virgile, parce que Dante ne lisait pas Homère, parce qu'en fait, on ne connaissait pas encore le grec. Ça sera pour l'humanisme, mais Virgile le connaissait très bien, il connaissait son Homère très bien, et Dante, justement, connaissait Virgile super bien. Il est sa guide dans l'au-delà. Et Virgile, il a réécrit le train possible entre Odyssée et sa mère, dont 3 passages magnifiques où le train possible devient le symbole de la perte. C'est-à-dire que c'est Orphée qui cherche à embrasser Eurydice. Quand il la perd, il n'y arrive pas.
Quand ils sont en enfer, d'ailleurs, où Orphée va chercher Eurydice qui est morte.
Justement.
Et on lui accorde la possibilité de la tirer à nouveau vers la vie, donc vers la surface de la Terre, à condition qu'il ne se retourne pas pour la regarder. Évidemment, il est tellement épris d'amour qu'il ne peut pas s'empêcher de la regarder. Elle se fige instantanément en statue de sel et Orphée perd Eurydice à jamais.
C'est ça. Et c'est la fin des Géorgiques. Et quand il la perd, il cherche à l'embrasser trois fois et il n'y arrive pas. Et le même arrive à Énéas dans l'Énéide avec sa première femme et avec son père. Et alors, Dante prend ce motif, cette idée, et il la met au début du Purgatoire, dans un passage magnifique et très complexe, en effet. Parce que si je peux en parler
Vous êtes là pour ça, je vous en prie.
Un peu. D'abord, il faut se rappeler que quand Dante écrit le Purgatoire, en fait, toute la Divine Comédie, il est en exil. C'est-à-dire que en 302, il a été exilé et, en effet, dans ce passage, il rencontre un vieil ami de Florence et c'est sa façon de récréer sa jeunesse. C'est le moment de la poésie, c'est le moment de l'enthousiasme des sentiments, c'est la passion de l'art. Et alors, cette rencontre avec Casella, il faut se rappeler, a été écrit par un poète qui cherche à recréer quelque chose qu'il a perdu. Et ce qu'il a écrit, ce qu'il imagine, on l'a entendu, c'est que ces deux amis se rencontrent au début du purgatoire et ils cherchent à s'embrasser et ils n'y arrivent pas justement parce que les âmes ont un corps, mais ce corps, qui est très important, on l'a vu, c'est un corps fait d'air aérien qui ne permet pas de s'embrasser. Il y a quelque chose qui manque. Dans ce corps-là, c'est cette matérialité qui permettrait de s'embrasser. Et ce qui arrive, c'est que après, en fait, n'a pas avoir pu s'embrasser, Dante quand même demande à son ami, qui est un musicien, de mettre en musique une chanson. Et la chanson que cet ami choisit, c'est Amor che nella mente mi ragione, qui est une chanson à Dante même, et il la chante d'une façon si merveilleuse, douce, dolce, Dante écrit, que toutes les âmes oublient d'être purgatoires, parce qu'elles sont tellement enchantées par cette performance que rien n'importe plus.
Comment s'appelle la chanson ?
Amor che nella mente mi ragione, amour qui me parle dans l'esprit. Et vous voyez, alors c'est tout ce monde du passé que Dante cherche à vivre ou à recréer encore. Mais c'est pas juste. Les âmes doivent oublier tout ça. Après cette train possible, après cette performance magnifique, Caton, le gardien du purgatoire, arrive et il dit aux âmes, mais êtes-vous folle? Qu'est-ce que vous faites? Vous devez oublier tout ça, vous devez vous transformer, vous devez aller dans les terrasses du purgatoire et, par la douleur, apprendre à vous détacher du passé.
Là, c'est fascinant parce que ce que Dante décrit ici à travers cette étreinte impossible et ce chant amoureux qui bouleverse toutes les âmes, au point de leur faire oublier qu'elles doivent aller ailleurs ensuite, c'est en fait un portrait de la nostalgie.
Tout à fait. Et on peut penser au purgatoire comme, parce qu'on verra qu'en fait on est plus compliqué, c'est plus compliqué que ça, mais on peut penser au purgatoire comme la thérapie pour se libérer de la nostalgie. C'est-à-dire, le purgatoire permet aux âmes de ne pas plus regarder derrière, mais d'apprendre à regarder vers Dieu.
Et c'est le corps qui est le lieu du passé, c'est le corps qui figure ce qui n'est plus.
Justement, en fait, parce que Casella, on l'a entendu, il dit « Moi, je t'aime de la même façon que quand j'avais mon corps ». Et le corps, c'est justement le symbole, pas seulement c'est le symbole, c'est le lieu du passé, de la mémoire, des sentiments qu'on a partagés, de la jeunesse, de la poésie, de tout ce que, d'une façon très dure, je trouve, il faudrait oublier pour arriver à Dieu. Et Et c'est pour ça que, en effet, ce passage est très intéressant parce que, d'une part, il y a, moi je l'appelle la normativité. Il y a cette partie normative de la loi de Dieu qui dit il faut oublier tout ça, mais il y a aussi la poésie de Virgile, de Homère, de Dante, la langue de Dante, qui en fait donne un sens plus compliqué, qui nous fait sentir en fait ce manque du corps. Ça nous donne l'idée que sans le corps, sans le vrai corps, sans le passé, il y a quelque chose qui manque.
C'est ça, c'est un portrait de la finitude aussi de cet homme, de cet être humain que nous sommes, de ce corps qui est comme un ancrage dans le sensible, de notre finitude qui fait que nous avons un temps qui s'écoule. Ce n'est pas un temps éternel, c'est pas le temps du purgatoire, c'est pas le temps de l'enfer ni du paradis, et que c'est cet ancrage sensible qui nous fait aussi connaître les plus grandes joies. Proust ne décrit pas autre chose dans La Recherche du Temps Perdu.
Oui, tout à fait. Et c'est, je crois, ce que ce passage nous dit, c'est justement que ce corps mortel est vraiment nous-mêmes. D'une façon que c'est... Vous voyez, c'est comme Dante a la possibilité de penser à l'au-delà et, en fait, on verra à la possibilité que ce corps mortel, que c'est nous-mêmes et qui est, comme vous avez dit, est fini, est possible qu'il revienne et qu'il en fait nous permet de retrouver tout qu'on a perdu. Alors il y a comme quelque chose qui est peut-être ici très tragique, mais on disait on est au début du purgatoire, les choses vont changer. Mais c'est vrai que le purgatoire c'est le lieu, la thérapie contre la nostalgie.
À quoi ressemble le purgatoire? Parce que là effectivement on en a encore au début. C'est une montagne. Comment se fait l'ascension?
Oui, c'est une montagne qui a été créée quand Lucifer, quand Satan est tombé au tout début de la création. Quand il est tombé sur la terre et la terre était tellement dégoûtée par ce pécheur qu'il a bougé et il a créé une cavité et la matière de cette cavité a créé une montagne dans l'hémisphère opposé. Et ça, c'est le purgatoire. Et le purgatoire est très symbolique. C'est intéressant, on l'a vu. C'est un dogme très récent. Et alors, Dante a beaucoup de liberté pour s'imaginer ce triomphe poétique, comme le Goff l'appelle. Et il imagine que, au sommet de cette montagne, il y a le paradis terrestre, l'Éden. Alors, le purgatoire, symboliquement, est le processus qui permet à l'humanité perdue de récupérer l'état originaire de perfection dont elle avait été créée avec Adam et Ève. Alors, c'est cette montagne qui nous mène au paradis perdu. C'est en fait, c'est une nostos, hein, c'est un retour au début.
C'est ce que Dante dit à son ami lorsqu'il le croise, Castella. Il lui dit, moi, je dois revenir là où je suis. C'est pour ça que je fais ce voyage. Il lui demande, mais toi, pourquoi as-tu mis tout ce temps? Mais Dante dit ici que lui, il voyage pour revenir là où il est. Ouais. Toute l'ambiguïté du texte, c'est qu'on ne sait pas si quel est le statut de Dante. Il voit des morts, mais lui-même n'a pas l'air mort. En tout cas, il se décrit comme étant tantôt endormi, tantôt éveillé, avec des ellipses qui lui permettent de passer d'un endroit à l'autre sans expliquer tous les détails. Mais on ne sait pas, lui, si véritablement il est mort, ou si c'est ce récit d'une transformation de soi, un récit initiatique qui va lui permettre ensuite de devenir vraiment tel qu'il est, c'est-à-dire quand même dans une forme d'amour pour Dieu. Il y a une trajectoire qui est suivie. Hein.
Tout à fait. Moi, je pense qu'il est vivant. Il voyage dans l'au-delà. Vous voyez, c'est la Divine Comédie est le voyage de transformation de Dante même. Ouais. Il commence dans le péché et c'est le voyage qui lui permet d'arriver à la transcendance. En fait, à s'unir avec la transcendance dans le bonheur complet du paradis. Mais c'est aussi le chemin d'un soi-même. Ce que Dante décrit dans la Divine Comédie, c'est l'intériorité de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne décrit pas seulement ce que c'est l'au-delà, mais l'au-delà est une métaphore pour décrire qu'est-ce que c'est l'âme de la personne. Vous voyez, quand il parle de l'enfer, quand il parle des pécheurs charnels qu'on a vus, il ne dit pas seulement que, en effet, les pécheurs charnels sont punis par une tempête, mais il décrit l'état, l'esprit de ce que c'est pour lui de, il dit, de soumettre la raison à l'appétit. C'est-à-dire que ce que Dante décrit dans l'au-delà est un symbole, une métaphore pour ce que ça signifie de vivre ici, sur la terre. Alors, on peut prendre la Divine Comédie comme un voyage dans soi-même à la découverte de comment il faut vivre pour être heureux, mais ici, pas dans l'au-delà.
Mais le fil conducteur de ce voyage et qui explique la situation dans laquelle se trouve chacune des personnes ou des ombres, des âmes devenues ombres qu'il va croiser, c'est l'amour qui est présent dès le départ et qui fait que, arrivé au terme du purgatoire, au bout du purgatoire, Virgile lui dit qu'il ne peut pas l'accompagner. Lui-même n'a pas accès à l'au-delà puisqu'il était païen, donc il ne peut pas aller au paradis. Et c'est là qu'il passe le flambeau, si j'ose dire, à une autre personne qui est Béatrice, qui était présente dès le début du texte. Et l'on comprend qu'en fait, tous les damnés, tous ceux qui sont en enfer ou qui vont rester au purgatoire de manière un peu plus indéfinie, sont ceux qui quelque part, manquent d'amour.
Et qui manquent de l'amour
pour.
Juste.
Oui, c'est ça. Oui,
ils ont des désirs, mais ces désirs ne marchent pas, ne sont pas ceux qui permettent d'arriver au bonheur. Et le purgatoire, c'est justement la thérapie qui apprend aux âmes à transformer ces désirs mauvais dans un amour juste. Et en fait, vous avez dit justement au sommet du purgatoire, dans le paradis terrestre, ouais. Il y a cette rencontre avec l'amour du passé. Et là, il y a déjà un autre paradoxe, parce que, en effet, le purgatoire avait été censé être le parcours qui apprend à oublier le passé, et à la fin du purgatoire, Dante rencontre l'amour de sa jeunesse. Et c'est cette femme, Béatrice, qui deviendra la guide pour arriver au paradis. C'est génial quand même. Et c'est tout à fait, vous voyez, là, il y a une grande question théologique pour les dantologues, comment penser à Béatrice. Il y a des gens qui disent, c'est une femme qui devient le symbole de la théologie. Pour moi, c'est encore le symbole du monde passé et c'est étonnant de choisir cette femme comme la guide pour arriver.
Oui, la question de savoir, c'est si il retrouve Béatrice au paradis, alors est-ce que c'est la femme telle qu'il a connue? Ça voudrait dire que le passé est présent au paradis, ce qui est presque paradoxal. Ou est-ce qu'ici, Béatrice serait quoi l'autre, une sorte de figure divine, d'amour divin?
Et en fait, c'est vraiment une des grandes questions des dantologues. Pour moi, c'est les deux. En effet, parce que, en effet, peut-être, moi, on pourrait parler un peu de paradis, parce que, en effet, au paradis, on trouve le grand paradoxe que tout le passé qui aurait dû être abandonné, en fait, est encore présent, est encore mouvant, est encore très, très fort. Et Béatrice, pour moi, c'est justement le symbole de ce que vous... J'avais parlé de la discipline du purgatoire, de la normativité, de la loi du purgatoire. Il y a quelque chose dans la subjectivité qui ne se laisse pas apprivoiser. Et on la retrouve au milieu du paradis.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle hein,
Pour moi, oui. Mais pas pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui pensent autrement.
Puisque vous êtes allé au paradis, eh bien, on va vous suivre, on va en parler plus largement demain, mais il nous reste quelques minutes et ce serait dommage de se priver de ce passage par le paradis. On va entendre le récit de l'âme de Salomon qui explique avec la résurrection de la chair, eh bien, il y a quelque chose qui va, comment dire, le retour de cette chair sera-t-elle la chair glorieuse et sainte, la chair divine, ou au contraire la chair du corps incarné tel que l'âme le connaissait avant qu'elle passe par le purgatoire, c'est toute la question. Écoutez donc cet extrait du chant 14 du paradis de la Divine Comédie de Dante.
Lorsque nous aurons revêtu la chair glorieuse et sainte, notre personne sera plus parfaite parce qu'entière. Ainsi s'accroîtra ce que nous donne le bien suprême en lumière gratuite, lumière qui nous conditionne à sa vision, d'où il convient que la vision s'accroisse, que s'accroisse l'ardeur qui s'allume d'elle, que s'accroisse le rayon qui en dérive. Mais, comme charbon qui donne une flamme et par vif éclat la dépasse, si bien que son apparence lui survit, ainsi, cette splendeur qui déjà nous entoure sera vaincue dans l'apparence de la chair que la terre recouvre aujourd'hui. Et tant de lumière ne causera nulle fatigue, car les organes du corps seront forts pour tout ce qui pourra faire notre joie. Ils m'apparurent si prompts et empressés l'un et l'autre cœur à dire « Amen » qu'ils montrèrent bien un désir de leur corps mort. Non peut-être pour eux, mais pour leur maman, pour leur père, et pour ceux qui leur furent chers avant qu'ils fussent flammes sempiternelles. Si je mets en second le plaisir des beaux yeux dont la vue repose mon désir, mais qui saisit que les deux sceaux vivants de la beauté sont plus puissants, plus hauts, et que là je n'étais pas tourné vers eux, peut m'excuser de ce dont je m'accuse, pour m'excuser et voir que je dis vrai, car le saint plaisir n'est pas exclu d'ici, puisqu'il se fait en montant plus pur.
Le saint plaisir n'est pas exclu, mais que reste-t-il du paradis dès lors que, dans ce lieu qu'on appelle le paradis, on peut encore ressentir du désir pour le corps mort ?
C'est ça qui est, je trouve, génial et de Dante et peut-être de la littérature qui marche, c'est-à-dire fonctionne d'une façon où les contradictions sont possibles. Alors, on a vu le purgatoire comme théoriquement la thérapie pour oublier le passé et on retrouve au milieu du paradis les âmes bienheureuses qui théoriquement devraient avoir tous les désirs satisfaits par leur vision de Dieu. On les retrouve qui, justement, encore
désir donc manque quelque chose.
Il leur manque quelque chose et ce qui les manque c'est leur corps c'est l'âme de Salomon qui explique qu'à la fin de temps ce corps reviendra et ce corps ne sera plus fait d'air mais ce sera la chair glorieuse et sainte,
le corps ressuscité
et ce corps ressuscité sera fait encore de chair. Et en fait, moi j'aime bien imaginer que cette chair permettra aux âmes de s'embrasser et les étreintes possibles qui étaient au début du purgatoire entre Dante et Cazel seront encore possibles. Alors pour moi, là, dans ce désir pour le corps, dans la matérialité du corps, dans le désir du passé, dans la mémoire du passé, il y a cette plénitude sans laquelle même le paradis serait incomplet. Alors, j'aime penser que, à la fin des temps, les âmes retrouveront leur corps et les deux amis pourront s'embrasser encore. Alors, ces étreintes impossibles seront possibles à la fin des temps et la poésie de Dante nous permet vraiment de penser à la possibilité de surmonter la perte. C'est ça qui est très soulageant. Et d'une façon qui, en fait, je trouve, défie même la théologie. Parce que là, c'est Dante qui fait un mélange de poésie lyrique, de culture populaire. C'est vraiment la liberté de la poésie par rapport à la théologie, qui est un peu plus normatif.
On va suivre ce vent de la liberté de la poésie pour terminer cette émission. On va s'envoler avec un groupe contemporain, peut-être connaissez-vous, qui s'appelle Divine Comedy, justement, la comédie divine. Écoutez, Tonight We Fly en direction du paradis. Shadows as we float. cette chanson de Divine Comedy qui a conquis les deux personnes en studio, Géraldine Mosna-Savoie et Manuel Granulati. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous nous direz. Manuel Granulati, un grand merci d'être venu nous parler de Dante aujourd'hui.
Merci à vous.
Et je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, enfin les auditeurs qui peuvent lire l'italien, Amor che move, linguaggio del corpo e forma del desiderio in Dante, Pasolini e Morante. Je l'ai bien dit, j'espère.
C'est très bien.
Donc le langage de du corps et la forme du désir chez Dante, Pasolini et Morante qu'on trouve aux éditions Saggiatore. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Bon, saisissons le vol lancé par la Divine Comédie et suivons-vous. Enfin, on va vous suivre. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin?
Alors, c'est pas en italien, c'est pas en Italie que ça va se passer. C'est en France, c'est à Marseille. Cette semaine a lieu la semaine de la pop philosophie. Elle a commencé lundi et elle se finira ce samedi. Et elle part cette année pour sa 9e saison du thème de la croyance. Alors, de la croyance dans les religions monothéistes au scepticisme, sans oublier, bien sûr, notre croyance, vous savez, quasi religieuse dans la démocratie, sous la forme de conférences, d'échanges et de spectacles, et en présence de philosophes, de scientifiques, de musiciens, de vidéastes, comme Henri Atlan, Philippe Corcuff ou Pacôme Thialmon. Cette semaine de la pop philosophie s'inspire bien de ce que Gilles Deleuze entendait par pop philo, à savoir une connexion entre pop culture et philosophie, et elle a donc pour enjeu de déceler dans nos objets pop ce qui se joue de la croyance, de la vérité et du mystère.
On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait le bateau ivre. Dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre.
Pour évoquer moi aussi ce thème de la croyance dans sa dimension pop, eh bien moi j'ai décidé de vous parler de ce très beau livre collectif sur le cinéaste Henri-Georges Clouzot. C'est le mystère Clouzot, c'est paru tout récemment sous la direction de Noël Herp. Disparu il y a 40 ans tout juste, Henri-Georges Clouzot n'a cessé à travers ses films de travailler l'envers de la croyance, ou du moins ce que l'on pense être son envers, la vérité, et ce qui nous la cache, le mystère qui l'enveloppe et nous empêche de l'atteindre. Quand Clouzot propose ainsi en 1956 Le mystère Picasso, dont on vient d'entendre un extrait, ce qu'il veut révéler aux spectateurs, c'est bien, comme on l'a entendu, les mystères de la création. Pourquoi continuer à croire au génie quand on peut en connaître les mécanismes? Pourquoi vouloir d'ailleurs, à tout prix, croire quand on peut démontrer la vérité et même la crier?
Durant des mois, celle-ci mendie, meurt de faim, se prostitue. Mais oui, se prostitue! A-t-il eu un geste pour la sortir de la boue? Non! Et vous appelez ça de l'amour? Une nuit, elle arrive à implorer son pardon. Il la bue sur ses sentiments. Il laisse renaître en elle l'espoir pour profiter d'elle encore une fois. Et il la congédie comme une fille. Elle revient. Elle lui dit son intention de disparaître. Il la met au défi de tirer. Et vous croyez encore à cet amour? Moi pas.
Mais si, Gilbert m'a aimé. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante. Pleine de défauts. Il m'a aimé quand même.
Dans son film La Vérité, justement, Clouzot rejoue pour nous le drame d'un procès. C'est celui d'une femme magnifique, interprétée par Brigitte Bardot, accusée d'avoir assassiné son amant. Quelle est alors la vérité de cette femme? Quelle est la vérité qu'elle défend? Et quelle est aussi sa vérité derrière sa beauté, son vrai visage? Ce sont les questions en jeu dans ce film. Et là est l'art de Clouzot, nous mettre face à nos propres stratégies de croyance et les dénouer. En rejoignant un procès qui est déjà une forme de mise en scène, qui est déjà le lieu où se justifient nos croyances plus que le dévoilement d'une vérité absolue, Clouzot rajoute de la mise en scène à la mise en scène, de la croyance en la fiction à la croyance en nos jugements et les apparences. Il crée autrement dit le maximum de tromperies pour nous faire atteindre non pas la vérité tout court, toute nue, mais la vérité de nos croyances et de notre besoin de croire.
Laissez-moi. Je suis malade. Très malade.
Eh ben, ça va aller beaucoup mieux tout de suite. Tout est arrangé.
Vous pouvez pas avoir un peu pitié de moi, non? Et me laisser crever tranquille? Vous trouvez que je ne meurs pas assez vite?
Mais qu'est-ce qui vous prend, ma petite dame, voyons? C'est pas le moment de mourir. Il est retrouvé. Il sera ici d'une minute à l'autre.
C'est faux. Vous savez que c'est faux. Vous savez qu'il ne peut pas revenir.
Pourquoi ça?
Parce que je l'ai tué.
Ce dernier exemple nous confirme cette volonté de Clouzot et toute la dimension philosophique de son cinéma. Dans Les Diaboliques, Christina est persuadée d'avoir tué son mari et les spectateurs aussi. Mais c'est sans soupçonner la puissance de la croyance justement et d'abord de la croyance en la vérité. Alors je ne vous dévoile pas la fin de ce film, mais on peut dire que du dévoilement du mystère à la démonstration de notre besoin de croire, de ces personnages persuadés de détenir la vérité à ces acteurs et spectateurs menés par le bout du nez, le cinéma de Clouzot se fait le détecteur de nos croyances.
Et donc vous nous invitez à découvrir deux actualités liées à la croyance, la semaine de la pop philo.
Évidemment, donc, qui tourne autour de ce thème de la croyance. La semaine de la pop philo a lieu jusqu'à ce samedi 28 octobre et on mettra tout le programme en ligne. Et puis évidemment, ce très beau livre donc sous la direction de Noël Herbe, c'est le mystère Clouzot et c'est paru aux éditions Liénard et la Cinémathèque française.
Et j'en rajoute une troisième, le croyance, c'est le thème des rencontres de Cité Philo.
Auxquelles nous irons.
La ville de Lille, enfin qui se tiennent à Lille comme chaque année en novembre et on y sera. Et vous serez là également Géraldine, ce sera dans 2 semaines et des émissions que vous pourrez écouter. Donc tout un cycle sur la croyance, ce sera à la mi-novembre. Merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que Maud Markiewicz, David Pargamin, Marianne Chassor, vous-même Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Georges Claes qui était à la lecture des textes et Jean Guillermège à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de notre série dantesque sur la Divine Comédie de Dante. Eh bien, demain, nous arriverons enfin au paradis. On pourra vous raconter la naissance de l'humanisme avec le texte de Dante. Et ce sera Carlo Ossola, professeur au Collège de France, qui viendra vous proposer son récit. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. Et puis en ligne, sur le site internet des Chemins de la Philosophie, vous pourrez réécouter l'émission, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez sur le support de votre choix. Rendez-vous demain donc à 10h pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.